En novembre 2002, le cardinal Lustiger, alors archevêque de Paris, nous avait accordé une longue interview. C'était lors de l'Assemblée des évêques à Lourdes. Nous avions choisi de l'interroger et de l'entendre parler de l'avenir de l'Église avec un point de départ singulier, l'environnement international de l'époque. En effet, en 2002, au moment de l'entretien, qui vous allez l'entendre est d'une étonnante actualité, nous sommes un an après les attentats du 11 septembre qui ont bouleversé tant de choses. Mais pour le cardinal Lustiger, la porte d'entrée pour comprendre notre monde actuel, c'est l'écroulement du bloc soviétique. C'est par là que nous avons commencé l'émission. Monsieur le cardinal, bonjour.
Bonjour.
La situation internationale actuelle n'est pas sans nous provoquer beaucoup sur notre responsabilité aujourd'hui et sur la manière dont le monde évolue. Mais avant de parler plus précisément de ce qui s'est passé le 11 septembre et de ses conséquences, peut-être faut-il remonter un peu plus loin, évoquer la chute du mur de 1989 et les bouleversements qu'il a entraînés sur la scène internationale. Comment peut-on relire ces événements et apprécier ce qu'ils ont changé dans notre société aujourd'hui?
Ce n'est pas simplement des basculements politiques comme l'histoire nous en enseigne. On a bien vu des grands empires se constituer puis s'effondrer. Toute l'histoire telle qu'on nous l'apprenait quand j'étais jeune était remplie de ces batailles, de ces princes, de ces règnes et de ces empires qui se succédaient. Là, on pourrait dire, voilà, c'est un empire qui s'écroule, l'empire soviétique, comme on l'a dit, auquel succède une autre configuration des forces, des puissances, des intérêts politiques et économiques dans le monde. Je crois que cet écroulement de l'empire soviétique est très particulier et marque vraiment un nouvel âge du monde. Et je prends exprès cette expression, une nouvelle ère du monde. Je prends exprès cette expression parce que ça me frappe beaucoup de voir que dans Gaudium et Spes, c'est l'expression que les pères ont employée pour décrire ce temps pour lequel le concile avait été réuni pour annoncer cette jeunesse de l'Église dans un monde qu'il pressentait fondamentalement nouveau. Je ne veux pas dire que l'humanité a changé, ni que l'homme n'est pas toujours l'homme. Ce qui a changé, c'est les conditions de notre civilisation, c'est la nature de notre civilisation. Et c'est ça qui apparaît d'une façon tout à fait stupéfiante à nos yeux, parce que nous manquons de recul, on n'a pas toujours la distance qu'il faut. Je suppose que dans un siècle ou deux, on rira un peu de nos propos, mais on verra plus clairement ce qui est en train de se passer que nous sommes capables de le dire et de le voir. Mais nous pressentons que quelque chose d'inouï est en train de se produire. Inouï parce que jamais les hommes n'avaient atteint ce point où tous les hommes, l'humanité, je ne veux pas dire toute l'humanité parce que toute l'humanité, ça signifie tous ceux qui nous ont précédés depuis l'origine, et c'est aussi tous ceux qui nous suivront jusqu'à l'achèvement des temps. Disons, tous les hommes vivant en même temps sur notre planète. Aujourd'hui, enfin, nous nous connaissons les uns les autres. Au moins, nous savons que nous existons. Et aujourd'hui, il est possible à tout homme de communiquer avec tout homme, au moins théoriquement. Jamais l'humanité n'a mesuré ce qu'elle est dans sa complexité et sa totalité, et jamais les phrases de l'Évangile qui annoncent une espérance, un salut pour toutes les nations, qui annoncent la solidarité du genre humain, jamais le message chrétien, la révélation biblique n'a été autant à pied d'œuvre de ce qu'elle a à faire. Alors l'écroulement du communisme, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois une tyrannie horrible qui s'écroule, une de plus, mais c'est surtout le dévoilement des idolâtries de l'homme et en même temps leur radicale faiblesse. Car l'empire soviétique est très différent de la plupart des empires qui ont précédé. Ce n'est pas seulement une volonté de puissance, une idéologie impériale, mais c'est une volonté de faire nous-mêmes un homme nouveau. Sur le plan économique et politique, l'idéologie communiste telle qu'elle a été formulée au XIXe siècle et telle qu'elle s'enracinait dans la pensée de Hegel est aussi fantastique, démesurée, chimérique et destructrice de l'homme que l'est aujourd'hui, par exemple, non plus une idéologie, mais les avatars de la science quand elle veut reformer l'humanité, non pas à partir de l'histoire, ni des pensées, mais à partir de la biologie. Nous sommes donc à l'ère où le rêve démiurgique des hommes, qui se prennent pour Dieu, de se reformer soi-même, de faire une autre humanité, de changer la condition humaine en étant nous-mêmes les dieux de l'homme. Cela, c'est un vieux rêve des hommes dans l'Antiquité, mais maintenant, nous en avons le pouvoir matériel. Nous sommes donc dans une époque fantastique, extrêmement dangereuse, où on joue à pile ou face avec la vie et la mort. C'est en même temps une période où la jeunesse de l'Évangile n'a jamais été aussi évidente, du moins à mes yeux.
Alors justement, dans cette période de modernité, comment peut-on affirmer une exigence chrétienne? Quelles sont les pistes qu'il faut mettre en œuvre pour véritablement affirmer notre identité chrétienne?
Vous savez, je ne sais pas si la question se pose exactement dans ces termes-là, parce que affirmer l'identité chrétienne, c'est une revendication de chrétiens habitués à un certain monopole du marché, si vous voulez. C'est-à-dire que ça me fait penser aux firmes anciennes, bien établies, qui se trouvent, qui avaient leur clientèle, leur réseau de diffusion, et puis brusquement arrive un jeune concurrent aux dents longues qui vous lance une marque rivale et qui vient vous tailler des croupières. Alors du coup, on se recentre sur son produit et on veut créer une image parlante pour reconquérir le marché. Franchement, c'est pas comme ça que le problème se pose. C'est ce que vous pensiez, mais vous exprimiez au fond ce que nous pensons plus ou moins tous spontanément quand nous regardons les événements, la carte du monde. On dit que l'Église devrait s'adapter, elle devrait donner des produits plus consommables, elle devrait... j'ai entendu encore ça dans les questions qui nous sont posées même ces temps-ci. Quand allez-vous vous mettre au goût du jour? Et on a pris l'aggiornamento de Jean 23, ce mot italien qu'il faut traduire avec exactitude, pour mettre au goût du jour. Alors que c'est remettre à la lumière, remettre au jour. L'aggiornamento, c'est pas simplement la mise à la mode, c'est se replonger, se laisser illuminer à nouveau par la source de la lumière. De Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde ». Alors, comment parler à nos contemporains? Moi, je crois pas qu'il faut s'adresser aux publicitaires, ni réfléchir aux voix où les sondages nous donneraient le plus gros pourcentage. Il faut aller nous porter avec tout ce que Dieu nous a donné de sagesse, s'il nous en donne, d'intelligence qu'il a répandue parmi les hommes, de lucidité, là où le salut est nécessaire. Car la question du salut, dont on a pensé à un moment donné que c'était une notion périmée, est plus évidente aujourd'hui que jamais. Car jamais l'humanité n'a eu une expérience aussi tragique du mal dont elle est capable. L'époque tragique, c'est aujourd'hui. Et donc, les voies de l'annonce de l'Évangile, c'est probablement d'aller là où l'homme est le plus perdu pour lui annoncer la plus haute espérance. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Ne nous imaginons pas un instant que l'annonce du salut se fera par la voie marchande de la conquête du marché. Peut-on dire que Jésus, en annonçant l'Évangile, a conquis le marché? Il s'est trouvé en contradiction dans un combat spirituel d'une intensité qui nous échappe, tellement elle plonge dans les racines de la condition humaine et les obscurités du cœur humain. Et l'instant précis où l'univers bascule, c'est le mystère de la croix et de la résurrection du Seigneur. C'est dans le silence et la solitude de cet instant unique que toute l'histoire du monde se trouve condensée. Et il nous dit bien que nous-mêmes, nous avons à continuer ce combat. Par conséquent, évangéliser ce monde nouveau, c'est bien sûr penser à tout homme, aux plus pauvres, aux plus abandonnés, aux foules abandonnées comme des brebis sans berger. Mais nous ne nous faisons pas d'illusions. Il n'y a pas d'autre annonce de l'Évangile que de passer par le mystère du Christ, c'est-à-dire en suivant le Christ. Sinon, nous sommes exactement comme Pierre, quand Jésus lui explique « Voilà, le Fils de l'homme va monter à Jérusalem, il va souffrir, mis à mort. » « Jamais de la vie, Seigneur !» Il n'est pas d'accord, il ne comprend pas. La réponse de Jésus n'est pas une explication, c'est de lui dire « Passe derrière moi, Satan, tu mets une épreuve. » Pierre est prêt à discuter. Jésus était déjà en train de se battre, car Satan, c'est l'adversaire qu'il est en train de combattre. Il combat en marchant là où Dieu l'appelle et en faisant ce que le Père lui demande pour le salut du monde. Et nous, nous sommes les disciples, nous sommes chargés de faire ça. Quand les hommes sombrent dans l'abîme, ce qui nous est demandé, c'est de plonger avec le Christ. Pas de nous faire applaudir par les gens qui sont sur la rive. Et c'est à cette condition-là seulement que le christianisme remplit son rôle et peut être source de guérison et de civilisation. Car l'enjeu, eh bien, que les hommes atteignent, découvrent la beauté pour laquelle leurs yeux sont faits, comprennent l'amour pour lequel, à lequel ils sont appelés, l'amour mutuel, et travaillent, pécheurs, à se délivrer de leur propre faiblesse, de leur péché, et entrer dans l'amour. Ça ne se fait pas comme ça.
Que vous êtes en train de réentendre une longue interview que le cardinal Lustiger, aujourd'hui disparu, nous avait accordée à Lourdes en 2002 pour parler de l'avenir de l'Église.
RCF, la radio dans l'âme.
Donc, si je vous comprends bien, il ne s'agit pas de s'adapter ou d'essayer de plaquer le christianisme ou l'identité chrétienne à la société d'aujourd'hui, mais de replonger véritablement au cœur du message.
Pour une raison simple, c'est que le christianisme n'est pas un comportement adapté, un produit à vendre, une idéologie installée. Elle est l'irruption dans la liberté humaine de la liberté de Dieu. Elle s'adresse donc aux libertés. Elle ne s'adresse pas au conditionnement. Et c'est parce qu'elle s'adresse aux libertés qu'elle peut engendrer une civilisation. Une force contraignante ne crée pas une civilisation. Elle impose des comportements. Regardez la caricature contemporaine que nous avons eue avec les régimes totalitaires. Alors, à l'intérieur de ça, la liberté des hommes joue encore. C'est ça qui est de merveilleux dans l'humanité. C'est que même dans les pires des situations, il y a encore de la belle humanité qui apparaît. Mais la belle humanité apparaît quand il y a des hommes libres. Et des hommes que Dieu libère. C'est ceux-là qui font bouger l'histoire. Chrétiens, la vérité vous rendra libre, nous dit Jésus. Nous sommes donc appelés à témoigner librement de la liberté qui change les cœurs, ouvre les portes et permet aux hommes de créer ce qu'il y a de plus beau dans l'agir humain, l'amour, le pardon et donc la beauté de la vie et l'entrée dans une miséricorde qui est le terme même auquel le Christ veut nous conduire pour nous amener jusqu'à la gloire de sa vie divine et nous ressusciter avec lui.
Est-ce que du coup se pose aussi la question de la transmission aux générations à venir? Est-ce qu'il faut qu'on retrouve cette liberté dans la modernité, cet espace de liberté pour pouvoir transmettre véritablement quelque chose de très important aux jeunes? Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas peut-être enfermé et pas suffisamment libre par rapport à la modernité de notre monde?
Oui, je crois que le problème de la transmission est capital et qu'on est en train de balbutier là-dessus. Parce que constatons-nous? Une sorte de paralysie de notre civilisation, elle est incapable de transmettre à la génération suivante ce qui est le plus essentiel. Je veux dire, tout ce qui est quasi immatériel, qui ne peut pas s'enseigner par conditionnement, qui ne passe pas par le numérique, qui ne passe pas par ce qui se compte et se chiffre. Quoi donc ? L'amour de la beauté, l'amour de la liberté, l'apprentissage du bien, l'éducation des choix des hommes. Autrement dit, tout ce qui relève de ce que nous appelons d'une façon un peu honteuse l'éthique plutôt que de parler de morale, ou bien la dignité de l'homme dont on pense que c'est une notion déjà usée et critiquée, la version moderne des commandements de Dieu qu'on appelle les droits de l'homme, à condition que nous soyons nous-mêmes nous les acceptons d'autant mieux que ce soit nous qui les définissions, au lieu de les recevoir de l'amour qui nous crée, qui nous fait exister, etc. Alors, ce qui se passe avec la jeunesse, c'est que le produit de culture, le produit de civilisation que nous devrions transmettre n'est plus transmis. Mais dans l'œuvre d'éducation, dans l'œuvre de transmission de la jeunesse, il me semble qu'il y a deux choses. Il y a transmettre ce que l'homme stocke. Qu'est-ce que l'homme stocke ? Il stocke des savoir-faire, il stocke des richesses, elles se dévaluent sûrement. Vous vous doutez bien que les monnaies anciennes, du néolithique, c'est parce qu'il y avait sûrement de la monnaie à ce moment-là, je ne sais pas sous quelle forme, si c'était sous forme de tête de bison ou de gros cailloux, mais enfin, l'humanité a toujours su trouver des symboles de l'échange. C'est ce qu'on appelle la richesse. Cette richesse-là, elle peut se transmettre, mais ce qui se transmet, c'est les savoir-faire. Un paysan transmettait, autrefois un agriculteur transmettait à son fils comment semer, comment labourer son champ, comment greffer, etc. Un scientifique transmet à ses disciples du savoir. La rupture dans le savoir est réelle dans les générations actuelles, mais elle est fragmentaire. Il y a des choses qui se transmettent à toute vitesse et il y a des choses qui tombent complètement dans l'oubli. C'est tout ce qu'on appelle la crise de la culture. Et quand on a vu les enseignants s'apercevoir que les fruits de culture du christianisme, c'est-à-dire la capacité de lire les tableaux des musées ou les tableaux des églises, étaient en train de sombrer, ils se sont paniqués, ils disent « Mon Dieu, le christianisme est perdu. Les gens ne le connaissent plus. » Et des chrétiens ont pensé ça. Ils sont aussi paniqués que de savoir que des gamins confondent Vercingétorix et Napoléon. Et que tout ça, ils savent pas bien s'il y a un siècle de distance ou 40 siècles de distance, et ainsi de suite. Ça, c'est les objets de la culture qui ne se transmettent pas, c'est les savoir-faire qui ne se transmettent pas. Mais il y a autre chose qu'à transmettre, qui est beaucoup plus important. C'est ce que j'évoquais à l'instant. C'est-à-dire ce qui relève de l'apprentissage de la sagesse et du vouloir vivre. Le savoir-faire du néolithique, nous l'avons perdu. Le savoir traditionnel de l'homme proche de la nature, comme le sont, je reviens d'Australie cet été, on parle beaucoup des populations les plus anciennes. Et les Australiens sont fascinés par la connaissance qu'ont du désert, des populations natives. Mais c'est un savoir qui de toute façon va disparaître. Les outils scientifiques d'aujourd'hui le périment. Il y a quelques ethnologues qui peuvent s'en souvenir, mais ça se vient très vite du folklore. Les savoirs nouveaux périment les savoirs anciens. L'art actuel du menuisier ou de l'ébéniste n'est plus celui qu'il y a encore 50 ans on pouvait trouver dans le faubourg Saint-Antoine à Paris. Actuellement, avec les outils, avec les cols, on n'a plus besoin de faire des mortaises. Avec les agrafeuses, on peut se dispenser de savoir clouer. Et avec le plastique, on peut faire n'importe quoi. Alors on trouvera des spécialistes pour réparer les bijoux anciens. Ou les vieux meubles. Mais être courageux, être fidèle, savoir ce que c'est que l'homme et la femme, ça ne relève pas de cette transmission de savoir de cette sorte. C'est l'apprentissage de la liberté. Alors la foi, est-ce que la foi se perd ? Qu'est-ce qui se passe en France avec la jeunesse ? Ou dans l'Occident ? Ce qui se passe, c'est la culture inspirée par le christianisme, c'est le christianisme en tant que culture, qui sombre avec l'ancienne culture, ni plus ni moins. Il est solidaire de la société qu'il a façonnée et qu'il a créée. Mais le christianisme n'est pas les cultures qu'il a engendrées. Il y a eu une culture chrétienne dans l'Antiquité, nous en recueillons encore les fruits, parce que nous vivons le christianisme. Sinon, ça nous serait aussi étranger que les statues antiques dans les grands musées. En réalité, ce qu'il faut transmettre, c'est la vie de la foi. Et ça, c'est toujours aussi difficile. Croyez-vous que Saint François d'Assise a fait ce scénario impossible envers son papa et envers tous les gens qui l'entouraient ? Il a été facilement compris. Croyez-vous que quand Jésus lui-même appelle ses disciples à le suivre, c'était facile pour ceux qui étaient là, qu'il faut quitter son père, sa mère, etc. On a presque l'impression que Jésus instaure une rupture. Mais où se situe-t-elle ? Dans la rébellion adolescente contre les mœurs des parents ? Dans le refus de la socialisation ? ou bien la rupture d'avec le péché, l'entrée dans la liberté des enfants de Dieu. C'est le même thème. Ce qu'il nous faut, c'est annoncer l'évangile à des générations qui ne savent pas que Dieu les aime. Je ne crois pas que les gens du 19e siècle savaient mieux, les enfants du 19e siècle savaient mieux que les enfants d'aujourd'hui, que Dieu les aime. Car l'amour est toujours neuf et doit toujours être annoncé. Moi, je suis d'un optimisme, enfin, disons, d'une confiance sans limite à l'égard de la puissance de Dieu et ce qu'il fait dans le cœur des générations actuelles.
Alors, on ne peut pas, monsieur le cardinal, ne pas évoquer à ce moment-là toute l'action de Jean-Paul II en faveur des jeunes, que ce soit les Journées mondiales de la jeunesse, que ce soit ses rencontres lors des voyages apostoliques. Il a une proximité, une exigence vis-à-vis des jeunes. On sait que vous êtes proche du pape Jean-Paul II. Est-ce que c'est un exemple à suivre, pourrait-on dire, dans cette proposition de la transmission ?
Certainement, au moins dans son esprit, sinon dans ses modalités, parce que les modalités passent, changent nécessairement de décennie en décennie. Mais ce qui me frappe dans cette affaire, c'est la manière dont on a compris ce que Jean-Paul II a fait avec la jeunesse et continue de faire à l'égard des jeunes du monde entier. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on a dit, voilà, ce qu'ils aiment, c'est l'air et non pas les paroles. Vous savez, c'est ils l'écoutent, mais ils ne font pas ce qu'il dit. Je crois que Jean-Paul II a eu l'intuition, la vision, je dis bien, c'est pas un truc. La vision véritable de l'enjeu. Et ça, parce que la manière dont il réagit dans toutes ces circonstances, c'est que qu'il agit en homme de foi, en visionnaire, qui se laisse guider par la lumière du Christ. Il a compris que ce dont manquait cette génération, c'était, bien sûr, d'une connaissance du mystère du Christ, d'une connaissance au sens où on transmet de la culture, ce que je viens d'expliquer. Mais qu'elle était disponible dans l'ouverture de son cœur, dans l'ouverture de son intelligence, à accueillir l'annonce de l'Évangile. Il s'est donc adressé aux libertés pour donner un message de liberté et le message même de l'Évangile. Et bizarrement, quels qu'aient été les conditionnements des différentes journées mondiales, dans cette génération, c'est un langage neuf. Personne ne le leur tient. Non pas que le pape ait eu des recettes limitées, ça ne consiste pas à reprendre ses mots pour les annonner comme un perroquet. Car le propre de la liberté, c'est qu'elle est cette réalité sous-jacente à tout. Ce qui fait la force des paroles du pape, c'est non seulement parce que les paroles sont justes, exactes, fidèles à l'Évangile, ou bien intelligentes, profondes au point de vue humain, au point de vue psychologique, au point de vue expérience de la vie. C'est pas seulement parce que le ton est meilleur que d'autres. Vous voyez bien comment ce vieil homme qui est maintenant parle. On sent bien que la vérité de sa parole va au-delà du son transmis par les micros. C'est parce que c'est un homme de foi qui appelle par la foi la liberté de ceux qui l'écoutent. Et du coup, il est témoin véridique. Et les hommes sont faits pour la vérité. Le succès de ces journées mondiales, le message, la fascination que le pape exerce sur la génération, aucun publicitaire, aucun technicien ne peut s'en emparer, à moins qu'il ne se convertisse, et que lui-même agisse en homme libre, et qu'il accepte comme le pape, ou bien de se faire descendre, parce qu'il est témoin de Dieu, ou bien d'avoir une foule qui le suit, ou bien d'être seul, à être derrière le Christ, en croix. En réalité, ce langage-là est une grandeur de Dieu, il n'est pas la grandeur des hommes. Et ce qui est formidable dans notre époque, c'est qu'on fait la démonstration limite de la puissance de la parole de Dieu. Il n'y a pas de truc dans les journées mondiales. Je sais, j'étais témoin, j'ai pris ma part dans cette affaire. Si on voyait les trucs, c'est-à-dire si on voyait ce que des spécialistes de la télévision ou des organisations du spectacle peuvent faire, ils mettraient parfois d'une note zéro. Parce que c'est maladroit, parce que c'est à contre, C'est pas comme ça qu'ils auraient dû, qu'on a, les JO n'ont pas été organisés comme ça, les Jeux Olympiques. Ou bien les grands spectacles, ou bien les grands rassemblements. Il y a des trucs pour tout ça. Certains s'en sont servis pour les JMJ, d'autres pas, mais c'est pas ça qui a marché. Qu'est-ce qui a marché ? La puissance de l'amour de Dieu, la puissance de la liberté, et un homme aux mains nues qui est témoin de l'amour pour une génération à qui personne ne parle ce langage.
Vous êtes toujours à l'écoute de RCF et vous entendez cette interview du cardinal Lustiger. Lorsqu'il évoque le pape, il s'agit bien sûr du pape Jean-Paul II. Je vous rappelle que cet entretien a été réalisé au mois de novembre 2002.
Monseigneur Lustiger, après cette question de la transmission, il faut aussi parler de la question de la formation, parce qu'une fois qu'on a peut-être redécouvert cette liberté ou l'essentiel de ce message, il faut aussi se l'approprier petit à petit. C'est quelque chose auquel vous avez toujours été très sensible et vous avez beaucoup œuvré pour la formation. Est-ce que ça reste un axe aujourd'hui très prioritaire? Et selon vous, quelle valeur de la formation on doit retrouver aujourd'hui?
Eh bien, je décroche un peu du problème général de la transmission de la culture humaine à la génération suivante, parce que ce que j'évoquais à l'instant, c'était non seulement la transmission de la foi, mais la crise de la civilisation qui se joue sur la transmission d'une génération à une autre. Je reviens un tout petit peu en arrière. Ces moments où il y a une rupture dans la transmission représentent dans l'histoire des hommes les failles des civilisations. Une civilisation meurt quand elle n'est plus capable d'assumer la transmission de ses valeurs essentielles, de l'humanité qu'elle contient, à la génération suivante. C'est comme ça que meurent les civilisations. Prenez les civilisations les plus archaïques, les plus somptueuses des civilisations antiques, pourquoi sont-elles mortelles? Et par quel mécanisme meurent-elles? Elles meurent quand se désagrège la cohérence humaine intérieure, notamment la relation de l'homme et de la femme, et donc la structure familiale. C'est ce que disent les ethnologues. Hein. Je suis en train d'annoncer derrière Lévi-Strauss en ce moment. Ou bien, et quand le mécanisme qui est cohérent au précédent, qui est solidaire du précédent, de la transmission d'une génération à une autre, n'opère plus. Je crois que notre civilisation est dans une phase mortelle actuellement. C'est ce que le pape ne cesse de répéter en disant « Il faut une civilisation de l'amour et non pas une civilisation de la mort. » Or la mort, c'est pas simplement les bombes. C'est la mort spirituelle d'une humanité qui ne sait plus pourquoi elle vit et pour qui et comment elle doit vivre. Et quelle raison de vivre elle transmet à la génération suivante quand elle ne leur en transmet aucune. Alors ceci dit, l'éducation de la foi. J'aurais presque envie de parler concrètement par rapport à la France. Parce que là, je crois que nous sommes partis dans des considérations trop générales et peut-être abstraites. Enfin, elles ne sont pas abstraites, hein, mais elles sont peut-être trop...
Très larges.
Trop larges. Si je prends le problème très concret de la France d'aujourd'hui, ce n'est pas très difficile de faire un croquis. Ça a été fait déjà 10 fois ou 100 fois. Moi, je l'ai fait aussi à ma façon bien souvent. De montrer comment il y a toute une France ancienne qui achève de mourir et une nouvelle société qui s'est construite souvent pour des raisons matérielles, hors de la mémoire chrétienne. D'un mot, toute la concentration urbaine qui s'est opérée en l'espace de 30 ans, si on avait voulu avoir le même système de transmission et de culture chrétienne, de civilisation chrétienne, que la France séculaire, pluriséculaire, avait construit, il eût fallu bâtir, entre les années 50 et 70, mettons 15-20 ans, 30 000 ou 40 000 églises, et trouver 40 000 prêtres supplémentaires, pour avoir la densité de présence chrétienne à laquelle les Français étaient habitués, d'autant plus heureux d'avoir cet équipement qu'ils pouvaient dès lors ne pas s'en servir, car beaucoup de Français tiennent au curé et à l'église du village même s'ils n'y mettent jamais les pieds. On est content de savoir qu'ils sont là, ça peut servir, et ça peut servir pour les gosses. Puis si on a un pépin, on sera content de les trouver. Ça donne le curé de campagne de Bernanos en période de crise. Alors, il lui fallait faire ça, on ne l'a pas fait, on ne pouvait pas le faire, on ne l'a pas fait, c'est fini. Donc la crise actuelle est tout à fait fondamentale. Qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, moi je suis persuadé que ce qui est en train de se produire, c'est que à cause de la pauvreté, nous sommes obligés d'aller à la racine de la foi et de découvrir cette conversion du cœur profonde sans laquelle il n'y a pas d'église, il n'y a pas de témoignage. C'est ce que le pape vient de raconter dans son message sur le troisième millénaire. Quand il dit à l'Église, le programme d'action, regardez le Christ, suivons-le et acceptons cette transfiguration de notre existence. Alors nous sommes capables d'entrer dans ce combat spirituel qui est aussi un défi aux tentations de notre temps. Alors, pour la France, moi je vois que se lève en France une nouvelle génération de jeunes qui veulent donner leur vie au Christ, totalement. Par amour de Dieu, par amour de leurs frères. La voie la plus évidente aujourd'hui, c'est la plus identifiable, je ne dis pas la plus évidente, mais la plus facile à identifier socialement. C'est évidemment le sacerdoce. Parce qu'il y a un modèle ancien qui n'a pas été totalement détruit. Parce qu'on sait toujours ce que c'est qu'un prêtre, même si on se moque de lui, et on comprend qu'il donne toute sa vie dans la pauvreté, le célibat, l'obéissance, le don de sa vie pour annoncer l'évangile. Et bizarrement, alors que cela paraissait un non-sens à notre société qui dérape sur ces trois points, c'est-à-dire l'amour et la sexualité, la possession des richesses et la volonté de puissance. C'est les trois idoles qui font que la moitié de l'humanité est en train de crever de faim. Et que les plus puissants n'hésitent pas à ce qu'ils se massacrent les uns les autres. Et qu'on encourage beaucoup de déviances fantastiques dans leur déploiement social en matière de relations de l'homme et de la femme et de sexualité. On sait qu'il faut des saints de ce genre pour aider les hommes à sortir de ces impasses. Il y a des prêtres en France, il y en aura parmi la jeune génération. Je suis persuadé que si nous prions, si nous faisons ce qu'il faut, à tous égards, aussi bien pour la formation que pour les moyens concrets et l'organisation, il n'y aura pas 100 ordinations en France, mais il devrait y en avoir 200, 300, 400. C'est raisonnable à penser. On n'est plus dans la chrétienté paysanne d'il y a encore 3 siècles ou 2 siècles. On n'est plus au lendemain du Concile de Trente, on est au lendemain de Vatican II. Mais il faut en tirer les vraies conséquences. Ces prêtres-là, ils seront au rendez-vous si nous sommes fidèles à Dieu. Il y a une autre chose qui est fondamentale. Une autre vocation, c'est celle de la famille. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est un défi beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile encore que ça ne l'a jamais été dans les siècles récents. Car répondre au désir spontané de beaucoup, d'avoir un amour qui dure à travers les épreuves du temps, de découvrir que la fécondité humaine est une grâce et non pas une charge, d'accepter que un homme et une femme puissent donner naissance à des êtres qu'ils reçoivent et qui soient différents d'eux, et non pas simplement la copie de ce qu'ils ont été, mais qui seront d'autant plus fidèles à l'héritage qu'ils seront eux-mêmes et différents. Bref, ce modèle d'une famille est à contre-pied complet de la société. Et il est normal qu'il soit aussi socialement impensable et socialement contredit, soit par les modes, l'opinion publique, soit par les dispositions matérielles de la vie sociale, autant que les prêtres, parfois plus. Parce que le prêtre peut toujours s'appuyer sur l'annonce évidente de la suite du Christ, alors que la pensée populaire du côté de l'amour, du couple, est celle d'une vision naïve du bonheur. Alors que Jésus nous annonce bien que ce mystère de l'amour humain doit lui aussi passer par l'épreuve de la suprême générosité. Eh bien, je pense que cette vocation de la famille est capitale et qu'elle est un ferment de progrès pour la société, mais qu'elle est aussi un combat et un combat spirituel. Il ne s'agit pas de faire un syndicat des familles qui irait faire grève de l'impôt ou envahir les places du pouvoir pour brandir des pancartes. Le combat est beaucoup plus difficile que cela. C'est accepter l'épreuve de la fidélité, de l'usure, des ruptures intérieures, de la croix, du pardon, de la patience, de la longue patience, et trouver son bonheur à donner plutôt qu'à recevoir, et à recevoir plutôt que de donner. Autrement dit, l'amour comme échange des dons. Eh bien, je suis persuadé que là, il y aura à nouveau des familles chrétiennes, elles sont déjà là. Et elles sont en train de frayer un chemin étroit qui aide peut-être les hommes à faire quelque chose de nouveau. Alors moi, je suis persuadé que tout cela, on va inventer quelque chose d'autre. Alors, il faut, sur la transmission, je prends le cas de Paris où je vois bien ce qui est en train de se passer. Je crois que nous avons, je parle maintenant pour l'ensemble de la France, en ce qui regarde tous les problèmes de la jeunesse et de l'éducation. Les difficultés, les échecs du monde occidental dans son système d'éducation, de masse j'entends, parce que pour les élites on s'y entend très bien. On ne manquera jamais de gens très pointus qui sauront faire marcher les grosses machines économiques, sociales, de la recherche, etc. Mais c'est l'éducation du peuple, de la masse, même s'il y a une élévation du niveau de vie et d'information, l'éducation populaire dérape, et on voit ça dans les problèmes de la violence des jeunes, de tous les dérapages qui font peur aux adultes et qui font qu'actuellement, les jeunes sont presque comme une classe ennemie de la société. On est tenté de les mettre à part, de les traiter comme des étrangers, d'une certaine façon, qu'on envie, qu'on imite, avec qui on joue, devant qui on fait de la démagogie, mais non pas comme les enfants des parents qui doivent être solidaires et participer à la même aventure. Moi, je crois que l'Église, de ce point de vue-là, elle n'a pas en France les moyens dont elle aurait besoin. Notre système social et scolaire parfois rend impossible l'éducation religieuse, et c'est un grand crime politique. Parce qu'à ce moment-là, c'est de la part des politiques un aveuglement complet. Ils ne se rendent pas compte que le catholicisme en France et le christianisme d'une manière générale joue un rôle éducatif fondamental qu'aucune religion d'État ou qu'aucune interreligion d'État ne pourra jamais remplir. On n'apprend pas la morale simplement avec des leçons d'un instituteur, ni par un discours du maire. Ça n'est pas vrai. Parce que la morale, c'est un problème de liberté et de choix. La liberté ne se décrète pas au Parlement. Elle s'apprend dans le quotidien. L'amour ne se décrète pas par des CRS pour désarmer des gosses qui brûlent une voiture ou qui bombardent une vitrine. L'amour s'apprend d'une façon désintéressée, longue, patiente, pleine de tolérance et de pardon, d'exigence aussi, et d'exigence qui n'est pas faite de la peur du gendarme ou de la complaisance du pédagogue qui veut bien se faire voir. Mais ça, il faut qu'on le fasse, on le fera.
Je vous rappelle que vous écoutez cette interview que le cardinal Lustiger, aujourd'hui disparu, avait accordée à RCF au mois de novembre 2002.
RCF, la radio dans l'âme.
Un dernier point, si vous le voulez bien, Mgr Lustiger, qui est important aussi dans la jeunesse actuelle, parce que cette jeunesse est traversée par différents courants spirituels, pourrait-on dire, et comment peut-on maintenir l'exigence d'une véritable identité chrétienne et puis l'exigence de ce qu'on pourrait appeler une respectueuse fraternité avec les autres religions. Et dans le contexte actuel, c'est très fondamental.
Bien, c'est par la connaissance même du mystère du Christ. Car si on réduit la religion, comme on en parle souvent actuellement, à une certaine quête du spirituel qui peut se retrouver chez tout homme et se manifester par une dimension religieuse que les sociologues connaissent bien et que, assez naïvement, on avait prédit l'extinction rapide, ce qui est une erreur complète. Ça ne veut pas dire que tout est dans tout et réciproquement. Le propre de la révélation biblique, c'est qu'elle introduit précisément dans la religion une sorte de purification radicale, dans la mesure où elle introduit la révélation d'une transcendance. Ce qui me frappe quand je lis les articles de journaux, même parfois des livres qui ont un peu plus de moyens d'expression que les rapides réactions de celui-ci ou de celle-là, c'est que nous, occidentaux, nous projetons sur toutes les religions les catégories de la révélation juive et chrétienne. Quand on attribue à des gens qui ont vécu dans un autre contexte que le nôtre, et parfois avec une longue et riche civilisation, la même idée de Dieu que celle que nous avons héritée grâce à un long travail de purification, nous commettons un anachronisme. Quand on dit que qu'on traite comme un ministre du culte des responsables religieux, je sais pas moi, un sorcier d'une religion archaïque ou un chaman dans ce qui peut encore en subsister aujourd'hui ou dans ce qu'on imagine que cela a été, ou bien quand on regarde les phénomènes religieux de l'Asie qui sont quand même prodigieux et impressionnants, en les comparant au clergé occidental, on ne fait que faire des comparaisons par l'extérieur. On décrit un certain phénomène social courant dans toute l'humanité. On ne prend pas en compte l'histoire véritable de l'expérience spirituelle des hommes. Car l'histoire véritable de l'expérience spirituelle des hommes, elle passe par des chemins déterminés. On l'accepte parfaitement en matière de scientifique, par exemple. On sait bien que la physique moderne dépend d'Einstein et pas de Lao Tzu. Il y a un avant Einstein et un après Einstein. Et puis il n'y a pas qu'Einstein, il y a toute une série de savants. Chaque innovation, on accepte très bien qu'elle soit ponctuelle et qu'ensuite elle se généralise, même si elle est contredite. En matière religieuse, on voudrait avoir une espèce de pâte de fruits universelle qu'on pourrait mettre en condition sous forme d'étoiles, sous forme de croix, sous forme de croissant. Et on dit, voilà, tout ça c'est la même chose, c'est la même pâte, sauf qu'on lui a mis une forme différente. Mais je suis désolé, mais c'est pas comme ça que les choses se présentent. Il en va de même dans la pensée, dans la philosophie. La révélation chrétienne est universelle dans son intention, pas conquérante. Mais elle permet, elle voit avec bienveillance la recherche par l'homme de ce qu'il ne connaît pas encore, de ce qu'il ne peut que pressentir, du divin, la reconnaissance par le cœur de l'homme de cette réalité transcendante qui est inscrite dans notre propre liberté. Mais la manière la plus forte et la plus belle avec laquelle nous pouvons accueillir des frères en humanité et des frères dans la création même que Dieu nous en donne, ne nous oblige pas à éteindre la lumière que nous avons reçue, bien au contraire. C'est parce que nous croyons que Dieu est l'unique que nous pouvons reconnaître tout homme, même s'il ne croit pas en Dieu, ou s'il ne connaît pas Dieu comme nous le connaissons, comme un frère aimé de Dieu. Et l'amour que Dieu lui porte, nous n'allons pas lui imposer comme une chape de plomb. La rencontre des religions repose sur le respect de chaque religion. Et pour un chrétien, la rencontre des religions est possible parce que précisément, il est chrétien et qu'il a une foi forte. Car sinon, les religions, maniées par l'homme, sont nécessairement conquérantes et offensives. Ou bien elles sont ethniques, c'est-à-dire, c'est ce que la Bible nous révèle, c'est la religion d'un peuple, d'un dieu. Et quand ce peuple se fait conquérant, il impose ses dieux. Et on ne peut pas empêcher les peuples d'être conquérants dans l'humanité. Ou bien, c'est une vision qui fait que les hommes sont... Il y a les fidèles et il y a les infidèles. Regardez la tentation de l'islam aujourd'hui. Je dis bien la tentation. Que ce soit une religion ethnique ou une religion qui se veut conquérante et universelle, tel fut le cas de la religion communiste. Ce culte séculier, qui n'est pas le premier exemple des cultes séculiers du 19e et du 20e siècle, qui promeut une religion qui ne peut s'établir qu'en exterminant les autres religions. Le propre de la révélation juive, je dis bien juive parce qu'il y a toujours des juifs en ce monde, et du christianisme qui hérite de la Bible et qui a dans le Christ la parole de Dieu faite chair, a précisément cette particularité qu'elle ne prétend pas conquérir le monde, mais qu'elle se présente comme une lumière ardente qui éclaire tout homme venant dans ce monde. Nous ne sommes pas la lumière. C'est le Christ qui est la lumière. On n'impose pas le Christ. Il nous demande que la lumière brille en nos cœurs. Donc la rencontre des religions est possible pacifiquement. Peut-être que c'est une idée chrétienne que la rencontre des religions. C'est pas par hasard que c'est le pape qui a provoqué Assise. La manière dont le bouddhisme se présente comme une sorte d'universalisme, c'était la manière des syncrétismes asiatiques ou des philosophies. C'est pas par hasard que la rencontre des religions, même si elle a été précédée par des assimilations nationalistes ou ethniques dans la conquête du monde par les Occidentaux ou la découverte du monde par les Occidentaux, mais ce n'est pas par hasard si c'est le christianisme qui pose la question de la rencontre des religions et la provoque. Mais si on éteint la lumière de la révélation, il n'y aura pas de rencontre des religions. Il y aura compétition des religions. Et le défi d'Assise, c'est précisément à la lumière chrétienne de provoquer la rencontre des religions, ce qui est la seule manière d'empêcher les guerres de religions. Mais si le pape n'était pas le pape, ça serait la guerre des religions plutôt que le congrès des religions et la rencontre des religions sur leur vrai terrain.